Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
C'est Mythe de Boss, bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Sokolski en votre compagnie, je suis accompagné aujourd'hui de Raphaël Abou. Bonjour Raphaël.
Bonjour Olivier.
Ça va ?
Ça va très bien vous ?
En pleine forme ?
En pleine forme pour attaquer l'émission.
Allez, je vais vous laisser présenter notre invité parce que vous avez préparé un super truc et je voudrais pas qu'après vous vous sentiez frustré, tout ça, donc allez-y.
Ne vous inquiétez pas. Ravi d'être aujourd'hui avec Daniel Koltoff. Alors Daniel, vous êtes rare dans les médias et on est ravi que vous avez choisi Radio Judaïka pour nous rejoindre. Bonjour Daniel.
Bonjour Raphaël, bonjour Olivier.
Alors Daniel, vous êtes le fondateur de Business Space et vous vous présentez comme le Robin des Bois de l'immobilier. C'est ce que vous mettez dans votre profil LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes chevalier ?
Tout d'abord, on nous a donné ce nom à un moment donné parce qu'on défend les intérêts des locataires de surface de bureaux dans ce marché de bureaux important qui est à Bruxelles.
Juste peut-être vous rapprocher un petit peu
oui.
du micro.
Parfait.
Merci
okay.
beaucoup. On a Serge qui veille et, voilà, on a Serge qui veille et qui nous D'accord. signale qu'on vous entend pas bien. Voilà.
Et donc sérieusement, que fait Business Space, donc votre entreprise ? En quelques mots, on va revenir dessus après. Hein.
Oui, c'est une longue histoire. En fait, j'ai commencé il y a 33 ans comme un jeune immobilier ici à Bruxelles, dans l'immobilier de bureaux. Courtage, 12 ans chez Knight Frank, je suis...
On revient sur votre parcours juste après,
okay.
Juste qu'est-ce que c'est Business Space en deux, trois mots.
Aujourd'hui, d'accord.
Aujourd'hui, et puis après on repart sur votre parcours, si vous voulez bien, merci.
Nous défendons les intérêts des locataires de surface de bureaux.
Et vous travaillez pour les locataires
uniquement pour les locataires, et des raisons on va vous expliquer, mais uniquement pour ça, des services qui sont... sur les intérêts des locataires de surface de bureau.
Ah ben, comme on a beaucoup de locataires de surface de bureau parmi nos auditeurs, ça promet une émission passionnante. Olivier, on démarre avec la vie de Daniel, peut-être.
Cette fois, c'est vrai. On va maintenant, Daniel Guggenheim, Daniel Koltoff. Koltoff, déjà, c'est un bon nom, hein. Koltoff.
Tout va bien.
Koltoff en hébreu, effectivement, ça veut dire tout va bien. Quoi, la famille qui vient d'Israël, d'où il vient ce nom déjà peut-être.
Ah non. En 1811, il y a un certain Aaron Salomons qui a choisi ce nom pour lui et la famille parce que Napoléon avait instauré le droit civil ou le
code civil.
Code civil. Alors, il a choisi ce nom. C'est d'origine hollandaise. Si vous trouvez un Koltoff, ça veut dire d'origine hollandaise.
D'accord. Allez, on va revenir sur votre parcours. Donc, on l'entend. Vous n'êtes pas belge. En tous les cas, votre accent n'est pas belge. Je vous l'avais dit. Vous êtes hollandais ou d'origine hollandaise?
Alors, de naissance hollandais, il y a 55 ans, vécu après 12 ans, 5 ans en Allemagne, où j'ai fait ma jeunesse. En fait, je parle mieux ou j'écris mieux en allemand qu'en néerlandais.
Vous êtes resté à l'école en primaire, en secondaire, en Hollande, et vous avez
alors, oui.
Pourquoi
c'était déjà l'immobilier. Ma mère, parce que mon père était déjà décédé quand à l'âge de, j'avais 6 ans, ma mère a décidé de faire ce switch vers l'Allemagne pour des raisons immobilières, de loisirs.
C'était pas dur de retourner en Allemagne à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui, forcément, on a plus passé là. Enfin, on va dire qu'on s'entend mieux que les Allemands, mais les Allemands ont de bons accords avec Israël. Est-ce que quand on est juif et que, parce qu'à l'époque où vous êtes parti, vous avez 6 ans, donc on parle déjà il y a un petit moment, 49 si je me trompe pas, 49 ans, presque 50 ans, il y avait pas cette difficulté de partir en
Alors
en Allemagne.
on avait, aujourd'hui, j'ai profité de mettre ma kippa parce que je suis dans une maison juive ici, mais à l'époque, il n'y avait pas un vrai judaïsme dans notre famille. Ça s'est développé une fois quand je suis venu à Bruxelles dans les années 90. Mais c'est vrai qu'à l'époque, déjà en Allemagne, il y avait un nationalisme, pour ne pas dire une sorte d'antisémitisme en Allemagne qu'on a vu.
Vous étiez dans quelle ville en Allemagne ?
Ça s'appelle Gerolstein. C'est de là où ça vient l'eau minérale. On dit Gerolsteiner Sprudel. C'est dans l'Eiffel volcanique.
Moi, je connais le Strudel.
Strudel, c'est... Voilà, c'est...
C'est le sud de l'Allemagne, c'est ça?
Non, c'est proche du Luxembourg.
D'accord.
Du Luxembourg, ouais.
Alors, okay. on va continuer, sinon on n'avancera pas. On vous a interrompu. Donc, vous allez en Allemagne.
Bien, en Allemagne, 5 ans en Allemagne.
Et là, vous arrivez là-bas, vous ne parlez pas allemand vous
Non, avez... pas un mot. J'arrive dans la classe, le professeur, il dit « Wie heißt du ?» Je ne comprenais même pas ça. Alors, c'était
nous n'oublions pas,
zéro.
Vous pouvez nous le traduire.
Comment tu t'appelles? D'accord. Alors, je ne savais pas répondre, mais 3 mois après, je parlais l'allemand. C'était des enfants entre eux, ça va très vite. Voilà, alors... c'était très marrant parce que à un certain moment, je suis monté de grade au niveau des écoles. J'ai changé d'école plus élevée, gymnasium, ça s'appelle là-bas. Mm-hmm. Et même en allemand, j'étais pas le plus mauvais. Alors en étant étranger, alors c'était très bien. Jusqu'au moment que ma mère a décidé de revenir en Hollande parce que mon cher frère René, il a démarré dans l'immobilier de loisirs avec une maison. Et dans sa carrière, il en a fait 8000 à la côte hollandaise, entre autres. Et on a suivi ce marché, cette activité en quelque sorte.
Donc votre frère était plus âgé que vous et il a commencé une activité de construction ou de promotion?
Mon frère est né, c'est une petite histoire, je peux la raconter?
Allez-y.
Allez. Il avait une maison dans le nord de la Hollande, il n'arrivait pas à la vendre ou il n'arrivait pas à payer la hypothèque tout court. Il a mis une petite annonce dans un journal allemand et Ferienhaus zu kaufen, vacances de maison de loisirs à vendre, et il y a des Allemands qui sont venus directement. Il a dit il y a un marché. Et alors il a commencé avec 20 maisons par an. À un moment donné, il était à 600 maisons par an de vente et de développement.
D'accord, donc il construit des maisons et il les revend.
Tout à fait.
D'accord.
Maintenant, il est pensionné, mais c'était une belle époque.
Et donc à cette époque-là, vous avez déjà l'immobilier dans le sang. Vous savez que vous allez faire ça?
J'ai vendu ma première maison à 15 ans.
Ah oui, donc là, c'est carrément la moelle épinière.
Je dis, c'est pas pour être fier, mais c'est quand même marrant. Parce que tous les étés, on se retrouvait chez mon frère dans les parcs des bungalows avec des acheteurs qui voulaient tous acheter. Il y avait tellement de monde. On m'a dit, Dan, toi, tu as 15 ans, mais vas-y, occupe-toi de la famille belge qui veut acheter. Et on aura vendu une maison et j'avais 15 ans. Voilà. Il y a 40 ans.
D'accord. Donc, vous arrêtez l'école à ce moment-là et vous lancez...
Alors, j'ai continué à l'école et puis, à un moment donné, mon frère m'a dit, viens chez moi. Il a dit, moi, j'ai jamais fait l'école ou l'université. Toi, tu vas commencer aussi chez moi. Alors, c'était très tentant. Et j'ai commencé à 18 ans à travailler chez mon frère. Fait l'université.
OK, donc vous ne faites pas l'université. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à vos enfants? Si vos enfants, ils vous disent, je ne sais pas quel âge ils ont, mais si vos enfants, ils vous disent, papa, j'ai pas envie d'aller à l'UNIF, vous êtes partant, vous êtes finalement, c'était insouciant à l'époque, ou finalement, non, au contraire, c'était bien parce que ça vous a apporté cette fraîcheur et le fait de ne pas être formé, stéréotypé.
Dans mon cas, c'était, je dirais, dans mon cas, c'était très bien. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Mais je le recommande pas et à mes propres enfants, je préfère conseiller de faire l'université. Je sais que Steve Jobs, il a toujours dit, il faut qu'on apprend à décider au lieu de apprendre la théorie. Alors la pratique, évidemment, c'est très important pour réussir dans soit des affaires, soit dans un métier quelconque.
D'accord. Et donc vous commencez avec votre frère et vous commencez par quoi?
Alors ça a commencé à coordonner. Les équipes vendeurs, la prospection, mais recevoir des coups de fil, des envois, des brochures, des choses tout simples. Et mon frère m'a fait souffrir. Il voulait justement montrer que son frère, il ne reçoit pas de privilèges par rapport aux autres. Et je suis resté quelques années avec lui avant de redémarrer tout à fait autre chose. J'étais même croupier dans un casino.
D'accord.
Voilà.
Une belle expérience.
C'est une très belle expérience en Hollande, oui, à la frontière belge. Réceptionniste dans un hôtel pour, par après, gérer un parc de bungalows de 400-500 maisons. Et c'est là où mon immobilier a commencé. jusqu'à j'ai retrouvé ma chère femme, à l'époque ma copine ou fiancée, à Knokke, parce que j'habitais pas loin de Knokke. Et elle m'a convaincu de venir à Bruxelles plutôt qu'elle vienne en Hollande. C'est une meilleure affaire pour un Hollandais de venir à Bruxelles que...
Et elle est belge ?
Elle est belge, séfarade. Et moi, j'ai, en 1990, j'ai décidé de venir à Bruxelles et démarrer, justement aussi pour les raisons de respect du Shabbat, de démarrer plutôt dans l'immobilier d'entreprise. On sait bien que le résidentiel, il faut travailler le week-end, le samedi, alors que le bureau, vendredi à 5 heures, tout s'arrête.
Ça correspond à vos horaires de Shabbat, finalement.
Tout à fait. C'était un des raisons.
Et donc, vous arrivez alors en Belgique, vous ne parlez pas français. Vous apprenez aussi en 3 mois comme l'allemand ou vous avez... Non,
déjà en Allemagne, j'avais choisi le sujet de français au lieu de latin, heureusement. J'avais une base. Mais évidemment, quand on est venu à Bruxelles, ça coulait beaucoup plus facilement. Et bien sûr, à la maison, on parlait français.
D'accord. Donc, vous commencez une activité immobilière en Belgique. Racontez-nous ce que c'était.
Bien. Alors, j'ai commencé comme un jeune loup à 22 ans comme négociateur, junior negotiator chez Knight Frank, un des grands cabinets.
Et vous négociez quoi ?
Des bureaux. Ça veut dire...
La vente de bureaux.
Quand on dit négociateur, c'était le titre. Mais en fait, c'est le courtage entre la demande et l'offre. Et à l'époque, franchement, il n'y avait pas d'ordinateur ni email. Alors, il fallait vraiment prendre son listing et le coup de fil marié avec la disponibilité dans le marché.
D'accord. Donc, vous avez un stock de bureaux et vous appelez des locataires potentiels pour les convaincre de venir s'installer là.
Tout à fait. Les grands courtiers, ils ont leurs 150, 200, 250 biens à disponibilité. Et le but, c'était le courtage, le mariage.
D'accord. Et donc, négociateur junior, ça, c'est le premier poste
oui, tout à fait.
Avoir. Et
tout
vous avez grimpé.
Alors, on a grimpé, oui, sans vouloir stouffer, comment dire,
vanter. On est en train de vous pouvez stouffer tout ce que vous voulez.
Sans vouloir stouffer, c'est que la première année, j'étais tout de suite le roi des petites surfaces. Je pense que j'avais 22 transactions. Et alors, le boss, à l'époque, il me voyait comme un potentiel. Ça s'est développé. Comme je parlais néerlandais, j'étais le seul néerlandais dans tout un groupe de francophones. Évidemment, pas mal de dossiers néerlandophones, ça venait chez moi. Et ça s'est développé comme ça, directeur d'agence à un moment donné. Et puis, j'ai été nommé administrateur délégué de Knight Frank en Belgique. Et pendant quelques
années... Ça vous a pris combien de temps de passer de négociateur junior à... En fait, à Big Boss de Knight Frank pour la Belgique.
Après 5 ans directeur d'agence, et en 2000, je pense, 2000, c'était, ça veut dire après 10 ans à la tête de la société avec une vingtaine de personnes. Et je suis resté là-bas quelques années comme responsable, jusqu'à y avait la crise, la première crise des années 2000.
Daniel Koltov, il se passe encore quelque chose entre Business Space et Knight, entre Knight Frank et Business Space? Il y a encore une expérience où de là vous partez créer votre société?
Une expérience aujourd'hui?
Professionnelle. Non, est-ce que... Au moment où vous quittez Knight Frank, vous allez créer votre société ou vous avez encore une autre...
J'avais encore un autre parcours. J'ai fait un passage dans une boîte similaire qui s'appelle GVA Grimley, sur laquelle j'ai développé, en quelque sorte, j'ai, si je peux dire, inventé la formule qu'on fait aujourd'hui depuis 18 ans.
Juste avant ça, parce que c'est vrai que Knight Frank, JVA Grimley, donc c'est bien la société qui s'occupe de courtage de bureaux, donc elle loue des surfaces de bureaux qui leur appartiennent ou qui ne leur appartiennent pas.
Hein. Qui ne leur appartiennent pas.
Qui ne leur appartiennent même pas.
Alors Daniel, vous allez nous expliquer dans quelques minutes comment vous avez eu cette idée. Mais auparavant, on va marquer Daniel Koltov une première pause musicale. Vous avez demandé 2 morceaux. Alors, soit Maïmoué, soit New York, New York. Vous nous expliquez par lequel vous voulez commencer et pourquoi surtout.
Alors, commençons avec My Way. Ma façon, enfin, mon chemin. C'est pas le titre, mais c'est surtout... Frank Sinatra était chez nous à la maison le chanteur. Et j'étais invité pour un des derniers concerts de Frank Sinatra à Anvers. Et au lieu de prendre mon épouse avec, qui ça lui disait pas grand chose, j'ai amené ma mère. Parce que ma mère était folle de Frank Sinatra et on attend toujours New York ou My Way chez nous à la maison. En plus de ça, Frank Sinatra, il est né à Hoboken.
Carrément.
À New Jersey. Et Hoboken, c'est la même chose, ça vient d'Anvers, en quelque sorte, d'origine. Voilà.
Allez, on va se retrouver d'ici quelques minutes. J'espère juste que le programmateur, il a bien mis Frank Sinatra comme My Way, mais je suis sûr qu'il aura bien fait son travail. C'est Radio Judaïka, Mythe de Boss. Et notre invité, Daniel Koltoff, à tout de suite.
And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all. Had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For one.
C'est beau, Frank Sinatra, merci, et merci Daniel Koltoff pour ce magnifique choix. Je rappelle que vous retrouvez également toutes les émissions de Mythe de Boss sur les streamings, hein, sur les plateformes de partage comme Apple Podcast ou comme Spotify. On va reprendre Daniel, j'allais dire Daniel... Daniel Guggenheim, on va reprendre avec vous Daniel Koltoff de la société Business Space. C'est bien dit, hein.
Tout à fait.
Voilà, et on va en profiter. Raphaël voulait passer un petit bonjour.
Oui, on va en profiter pour saluer Serge Bézère qui nous écoute depuis l'avion apparemment.
Voilà, c'est magnifique.
C'est donc ce qu'on nous a dit. C'est vrai, vous croyez?
Oui, tout à fait, 100%. Il est en route. Je vous dirai vers les Ardennes. Je vous dirai pas vers où, mais il est en
vers les Ardennes
non,
en avion.
Je plaisante. Il est en route. Daniel Koltoff, on reprend votre parcours en quelques secondes, avant d'arriver à Business Space, et puis comment vous vient l'idée de ce Business Space?
Bien. Alors, j'étais dans le courtage en immobilier. Un jour, je reçois un coup de fil de la part du directeur immobilier de Sony, qui se trouve à Berlin, Stefan Weber. Il me dit, Daniel, viens vient à Berlin. Alors, je me trouve devant lui. Il me dit, écoute, nous avons besoin de 10 000 mètres carrés de bureaux à Bruxelles, à Zaventem, à l'aéroport. Est-ce que tu peux faire ça pour nous? Je dis, bien sûr, on va faire ça pour Sony. Mais, il dit, je veux que tu représentes absolument les intérêts de Sony et pas ceux des propriétaires. Alors, celui qui connaît le courtage, on a 40, 50, 60 contrats d'exclusivité avec des propriétaires, des promoteurs. C'est impossible de défendre les deux côtés. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, écoute, je dis à mon client que je peux le faire, mais en fait, je lui mens. Et ce n'est pas mon genre. Alors, j'ai dit, à ce moment-là, j'ai dit, je dois créer quelque chose qui représente uniquement les gens comme Sony, les gens comme
les locataires
de surface.
Donc, vous trouviez que la manière dont vos collègues opéraient avant que vous créiez Business Space, ils étaient dans un conflit d'intérêts, en fait. Ils ont tout intérêt à vous revendre ou vous louer la surface, peu importe.
C'est incroyable combien des conflits d'intérêts se trouvent dans le courtage, dans les agences immobilières, si on peut dire. Ils sont payés par les propriétaires, ils doivent conseiller l'autre côté. Ils reçoivent des commissions simples, doubles, triples, mais le client n'est pas au courant. Je peux parler une heure de règle du conflit d'intérêts. Et c'était pour moi, c'était décidé, il faut... J'étais le premier à le faire d'une façon tout à fait indépendante dans ce marché. Mais il fallait absolument que ce Robin des Bois naisse.
Voilà. Et il n'y avait pas d'envie de... Enfin, l'envie, c'était que de faire du bureau. Vous auriez pu faire du courtage dans le retail ou dans du résidentiel. Vous aviez appris dans le bureau, chez Knight Franks et chez les autres. Et vous sentiez que la niche, elle était là-dedans.
Tout à fait. Il ne faut pas oublier que Bruxelles, le centre de décision européen, il y a 13-14 millions de mètres carrés de bureaux, autant qu'à Madrid. Mais à Madrid, il y a 4 fois plus de gens qui habitent. Alors ça montre que Bruxelles, c'est vraiment une ville administrative. Beaucoup de bureaux. Évidemment, l'Union européenne attire beaucoup de sociétés, associations. Bien sûr, il y a aussi la logistique. Tout ce qui est entreposage, nous avons des clients qui font aussi de l'entreposage, mais on se présente comme notre core business, c'est le bureau. Mm-hmm. Hier, j'étais à Bruges pour un bâtiment de 3000 m². Toute la Belgique est couverte. Bruxelles, évidemment, 50-60% des bureaux en Belgique, c'est Bruxelles.
Mais quand vous dites que vous êtes à Bruges pour un bâtiment de 3000 m², en fait, là, vous représentez un futur locataire, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
D'accord. Donc, qui vous mandate et qui vous dit, Daniel, cherche-nous des bureaux, ou il a déjà trouvé en général quand il vient chez vous?
Ce sont soit des sociétés, soit des associations, des fédérations qui ont des stratégies, qui disent, aujourd'hui, on a ça, demain, on veut avoir plus, on veut avoir moins. Covid, c'était un chamboulement très important au niveau des bureaux. Si vous voulez, on peut en parler, mais je pense qu'on va
revenir dessus. Mais donc, dites-nous plutôt le process, effectivement. Donc, comment ça marche? Donc, vos clients.
On est toujours mandaté et rémunéré par les locataires. Jamais, jamais, jamais par les propriétaires. Ça, c'est un fil rouge, une ligne rouge qu'on ne dépasse pas.
D'accord.
Aussi pour garder notre crédibilité.
Et donc, ils vous mandatent pour négocier le bail, pour trouver des endroits?
Alors, 90% de notre temps, ce sont des missions qui s'appellent « move or stay ». Hein, vous êtes à la fin de votre bail ou vous avez une échéance de votre bail après 6 ans, par exemple. Vous voulez savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que les mêmes conditions, plus de surface, moins de surface? Et tout ce process, nous prenons en charge.
Pourquoi Daniel Koltov, le locataire ne va pas négocier directement avec Knight Franks, avec Cushman ou avec quelqu'un d'autre? Pourquoi faire appel à vous finalement?
Alors, négocier, on le fait avec le propriétaire ou avec le gérant de l'immeuble.
Ça veut dire que quelque part, vous vous engagez à faire mieux, à donner un meilleur résultat que si le locataire y est allé en direct?
Alors, je veux rester humble, mais ça fait maintenant 18 ans qu'on fait ça et on a dépassé 400 millions d'euros d'économies, de loyers et de charges communes pour nos locataires. Je pense que c'est un chiffre qui commence à être assez vaste.
On est qu'est-ce fiers. Que vous négociez exactement? C'est-à-dire le propriétaire donne au locataire ses conditions et vous arrivez, vous coupez tout en deux, vous réduisez les charges. Comment
c'est quoi possible, oui, c'est possible.
La sauce secrète.
Maintenant, c'est Robin Desbois. Avant, on nous appelait le Terminator avec la mitraillette.
D'accord, vous vous assagissez là.
on a
de la chance, Olivier. On a de la chance.
On n'a plus besoin de sortir la mitraillette parce qu'on nous connaît. La renégociation, hein, le stay, la renégociation, c'est un métier. C'est un métier. J'en fais ça depuis maintenant 30 ans, mais j'apprends tous les jours. Les propriétaires, il y a des fonds cotés en bourse, il y a des fonds étrangers, il y a des privés, il y a toutes sortes. Il faut s'adapter à chaque situation. On détermine des stratégies de négociation, des stratégies immobilières tout court. Et on a des clients qui aujourd'hui qui ont 200 personnes et demain ils sont 500 personnes et ils veulent savoir comment est-ce qu'on développe ça au niveau immobilier.
Il est comment le marché du bureau aujourd'hui à Bruxelles qui représente 60% de votre chiffre d'affaires? Comment vous le qualifiez? Est-ce que vous l'avez dit il y a quelques secondes, le Covid a tout bouleversé. Mmh. Beaucoup de gens travaillent de la maison en partie en tous les cas. Mmh. Comment vous le qualifiez le marché du bureau à Bruxelles?
Alors, jusqu'à une semaine avant Covid, je me rappelle encore janvier 2019, c'était janvier 2020, fin 2019, janvier 2020, on avait des clients, on ne trouvait pas des biens très chers dans certains quartiers. Le marché était très tendu au niveau des prix, au niveau des loyers. Et puis Covid est arrivé, bon, je ne vous explique pas l'image, mais très vite, nous avons dit, il y aura des baisses importantes d'utilisation de bureaux. Finalement, on a fait un communiqué de presse en disant 80% des locataires de surface du bureau vont réduire leur surface de 30 à 50%. Et c'est ce qui s'est passé les 24 mois suivants. Mm-hmm. Encore jusqu'à aujourd'hui, il y a cet effet. Surtout que le télétravail a pris sa place.
Ouais, et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'effet Bruxelles, ville compliquée pour arriver avec tout ce qui se passe pour ceux qui ont des voitures, etc. Est-ce que ça a joué aussi dans...
La mobilité est un point très important. Et je dirais, les décisions sont prises aussi par rapport à la mobilité, place de parking.
Oui, c'est ça. On va mettre souvent aujourd'hui, enfin, vous me dites si je me trompe ou pas, hein, c'est vous qui savez. On va plutôt avoir tendance à mettre des bureaux près des gares, près des, éventuellement des aéroports ou des choses comme ça. C'est un peu ça les nouveaux critères. On en parlera peut-être un peu plus tard.
Tout à fait. Il y a la mobilité, il y a aussi la durabilité, ce qui est un sujet très compliqué parce que les bâtiments, à Bruxelles, c'est un parc de bureaux très ancien par rapport à d'autres villes. Et il n'y a pas assez d'espace de qualité au niveau durabilité. C'est pour ça que les loyers des bâtiments de première classe, on appelle ça A-grade, ils vont jusqu'à presque 400 euros aujourd'hui.
Et tandis qu'un bureau normal...
400 euros par mètre carré par an.
Bien sûr. Et tandis qu'un bureau normal qui n'est pas ce grade A...
Ça commence à partir de... Ça dépend, Zaventem, à 100 euros le mètre carré, jusqu'à, je dirais, 150, 200 euros le mètre carré dans certains quartiers à Bruxelles.
Ouais. D'accord, mais généralement avec des charges supplémentaires, puisque les bâtiments n'ont pas de performance énergétique.
Hein. Voilà, il y a les charges qui font jusqu'à 50% du loyer, dans certains cas. Avec les tours qui sont ceux qui atteint les
charges maximales.
Les charges maximales jusqu'à 80 euros le mètre carré, hein, quand certains loyers sont à 200 euros, 150 euros. Et aussi les taxes, n'oublions pas les taxes. Parce que, et là, il y a un effet très intéressant à Bruxelles, c'est qu'il y a la région bruxelloise qui prélève trois taxes qui font un ensemble de entre 50 et 60 euros le mètre carré. Que si vous êtes arrivé vers un kilomètre plus loin, c'est 7 ou 8 euros le mètre carré.
D'accord. Donc là, effectivement, il y a une différence. Mais justement, Daniel Koltoff, dans votre métier, puisque vous dites que vous négociez les baux et les conditions pour vos locataires, vous ne pouvez pas toucher aux taxes, vous ne pouvez pas toucher aux charges. Donc finalement, c'est quoi le cœur de la négociation quand vous négociez avec un propriétaire?
On peut toucher aux charges.
D'accord.
On peut toucher au loyer. Et surtout loyer et optimisation d'espace. Beaucoup d'organisations, sociétés, associations ont fait l'effet de « j'ai aujourd'hui 2000 mètres carrés, je peux très bien m'en sortir avec la moitié ». Alors, cette optimisation fait déjà une économie très importante parce que c'est loyer, taxes et charges fois le nombre de mètres carrés par an. Mais en dehors de ça, il y a des propriétaires qui se trouvent avec des bâtiments B-grade ou C-grade et qui ont peur que locataire part et qu'on ne trouve pas un nouveau
locataire. D'accord, donc vous sentez ça, c'est parce que vous connaissez bien le marché.
Voilà, il faut avoir un peu le nez aussi
et
connaître les propriétaires et connaître les disponibilités pour pouvoir juger la situation de chaque bâtiment, chaque immeuble, chaque quartier. Prenez par exemple le quartier Léopold, qui est le quartier européen. Il y a trois vitesses différentes dans un même quartier.
Ça veut dire quoi, trois vitesses différentes?
Trois marchés différents dont à l'intérieur d'une part du marché. Voilà.
Justement, Daniel Koltov, est-ce qu'aujourd'hui, on va au bureau de la même manière qu'on allait au bureau il y a 15 ans ou il y a 20 ans? Ou est-ce qu'on parle d'open space ou c'est plus comme ça? Comment vous avez vu cette évolution, je sais pas, on va dire sur les 20 dernières années? Qu'est-ce qui a changé à part effectivement ce côté écologiste où on veut performer là-dedans?
Ouais. Alors il y a 30 ans quand j'ai commencé, c'était encore très des bureaux séparés, chacun dans un bureau, peut-être avec deux personnes dans un bureau. Il fallait capsuler. Très vite, il y a le mix avec l'open space qui a commencé, mais beaucoup d'organisations sont retombées sur la privatisation parce qu'il y a l'acoustique, il y a le côté impersonnel. Alors, ça, pendant 20 ans, ça fait du yo-yo. Aujourd'hui, on parle de activity-based environment. Ça veut dire qu'on a des surfaces pour réfléchir, on a des surfaces pour parler, on a des surfaces pour brainstorming, on a des surfaces pour dormir même. Alors, on développe les surfaces en fonction de l'activité de chacun à chaque moment. Quand je dis nous, on ne fait pas les aménagements, on travaille avec différents partenaires qui sont validés depuis des années chez nous, des spécialistes dans la matière, mais l'aménagement des bureaux est très important pour finalement trouver une chose, c'est l'expérience. Experience. Aujourd'hui, le bureau, pour attirer les gens de revenir au bureau, il faut leur donner quelque chose. Et c'est pas un ordinateur et un beau bureau, c'est vraiment de passer des moments. Si vous prenez Facebook ou Google, vous arrivez avec un toboggan dans les bureaux. C'est exagéré, mais aujourd'hui, c'est l'expérience des bureaux, de se sentir bien, d'avoir des services. Aujourd'hui, conciergerie sont très fort développés dans les bureaux, que les personnes, le staff se sent bien et motivé, surtout du staff de jeune âge. Ouais.
Alors, on va y venir justement sur la localisation des bureaux. Vous qui connaissez bien Bruxelles et sa périphérie, est-ce que la localisation, être en ville, être dans un environnement boisé peut-être, ou forestier, c'est pas ça l'avenir par rapport à ces banlieues de type aéroport? Est-ce que c'est partagé? Est-ce qu'il y a des clients pour tout? Comment vous le voyez, Daniel Koltov?
Il y avait toute une époque où il y avait le centre, la périphérie, et entre là, il y avait le décentralisé. Il y avait Lavolu, Tervuren, etc. Toute cette zone-là est doucement en train d'être transformée en affectation vers du résidentiel, des maisons de repos. Et tout se reconcentre soit vers le centre, le CBD, le Central Business District.
Donc ça, c'est du côté de la rue de la Loi, c'est ça?
Alors, vous avez le Pentagone avec la gare centrale, le quartier Nord, le quartier Léopold avec la gare Schumann également, et l'avenue Louise. Ça, ce sont les quartiers du centre. Et en dehors de ça, il y a un développement très prometteur qui se trouve vers l'aéroport. Pourquoi? Parce que après presque 30 ans, il y a le tram qui continue jusqu'à l'aéroport. Il va arriver.
En Belgique, tout est facile. Les projets arrivent très facilement, c'est connu.
Ouais. Mais là, par exemple, un de nos partenaires, Ernst & Young, EY, ils ont pris un magnifique bâtiment à Diegem. Mais il y a le tram qui s'arrête devant.
Qui s'arrêtera devant.
Qui s'arrêtera devant, exactement. Et vers l'aéroport, KPMG, Deloitte, ils sont tous sur l'aéroport même, parce qu'il y a la gare déjà. Alors, la mobilité est très importante. Et en périphérie, il est en train d'arriver, en tout cas, de la partie aéroport.
Est-ce qu'il y a une partie des propriétaires à Bruxelles qui ont des difficultés justement avec toutes ces taxes, etc., qui se disent, on est propriétaire de bureaux, mais finalement, peut-être qu'on va le transformer en logement, c'est pas si mal.
Tout à fait, tout à fait.
Et ça, c'est un frein pour vous, parce que les surfaces de bureaux diminuent?
On voit Daniel Koltoff qui dit un grand nom là,
silencieusement,
Olivier.
On se régale avec des bâtiments qui sont pas neufs, parce que les marges de négociation, on arrive à les creuser. Mm-hmm. N'oublions pas une chose, c'est qu'une bonne partie de notre rémunération est basée sur le résultat. C'est aussi très important, c'est qu'on n'est pas comme les avocats qui sont payés à l'heure. Et s'il n'y a pas de résultat, il y a quand même une note à payer, mais nous, on est payé sur des pourcentages de la partie réussite. Alors, les marges, on essaie de les amener.
Et on voit clairement que dans la région bruxelloise, enfin la région Bruxelles-Capitale, il y a une question de logement. Mmh. Hein, donc on a une population qui a énormément grandi, hein, de la taille quasiment de la ville de Gand, de la ville de Charleroi en 15 ans. Donc on a un vrai problème de logement. La transformation des bureaux en logement, c'est un phénomène que vous voyez s'accélérer dans les prochaines années, ou vous pensez qu'on est finalement à un stock de bureaux qui est tout à fait correct?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de s'affaiblir. Il y a encore des bâtiments B ou C grade qui vont pas continuer en tant que bureau parce qu'il y a des zones qui sont vraiment pas faites pour, comme je viens de dire, Beaulieu, Evere, etc. Alors il y aura encore des transformations vers le résidentiel, mais c'est en train de assécher, comme on dit.
Oui, le filon est en train de.
Ouais, exactement. Alors le développement continue, plutôt périphérique. Périphériques en entour du ring, mais également, comme je disais hier, à Bruges ou à Gand, ce sont des villes qui prennent beaucoup de place. Pour que, prenez un KPMG ou un Deloitte, ils ont leur base quelque part, dans ce cas-ci à l'aéroport, et ils ont leurs antennes dans les différentes villes, ce qui est beaucoup plus logique que de prendre la route deux heures par jour.
Oui, c'est ce qu'on a vu avec des gens comme KBC aussi, qui ont construit cet énorme immeuble à Gand qu'on voit sur l'autoroute de la mer.
Alors, un point central avec des antennes est un concept qui va encore plus se développer. En dehors de ça, le coworking, je n'aime pas le mot coworking parce que c'est un concept à l'intérieur du flex. Je préfère le mot business center comme Regus. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous nous trouvons dans un bâtiment, le premier bâtiment Regus dans le monde, à l'avenue Louise.
Donc Regus, on rappelle, ce sont des loueurs, de bureaux à la semaine quasiment.
Tout à fait. Regus est le plus grand opérateur de bureaux flex dans le monde. Ils ont 4000 bâtiments. Et le fondateur, Mark Dixon, il a commencé en 89 dans l'immeuble dans lequel on se trouve. C'est un Irlandais, mais il a commencé à Bruxelles.
Vous avez bien négocié le bail?
Encore ce matin, j'étais en négociation avec la direction de Regus pour un client.
Ouais. Daniel Koltoff, alors on va revenir sur Business Space. Aujourd'hui, c'est combien de personnes et qui, en gros, font quoi?
Ok. À Bruxelles, nous sommes 10 personnes. Nous sommes 10 personnes, tous des professionnels dans le sens d'être membres de l'Institut des agents immobiliers.
IPI,
tout à fait, BIV en néerlandais. Nous voulons être blanc de blanc à ce niveau-là parce qu'il y a l'obligation d'être membre de l'IPI. Ce n'est pas un circuit facile, mais on tient à ça. On ne fait pas de concessions à ce niveau-là. Il y a beaucoup de sociétés qui font trop facilement des concessions. Nous, on veut être blanc de blanc.
Donc, Business Space, 10 personnes.
10 personnes.
Qui sont, alors, si je comprends bien, 10 fois des agents immobiliers.
Oui, ou encore 2 employés parmi les 10. Ouais.
Mm-hmm. C'est divisé comment la société? Alors, vous avez dit, le gros de votre business, c'est de la renégociation. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est le moins gros de votre business?
Le moins gros. En fait, l'immobilier de bureau, les services que nous faisons, il y a le move or stay, le moment du fin du bail, mais on a différents services tels que l'optimisation, l'audit des charges communes. Charges communes, même moi, après 30 ans, je ne comprends pas tout ce qu'il y a charges communes. mais on a un spécialiste qui s'accroche comme un pitbull dans cette matière. Il y a la remise en prestataire. Il y a beaucoup de bureaux qui sont... à la fin de leur bail, il faut remettre en prêt l'État, et c'est très important.
Ça, parce... ça doit être négocié au départ, finalement.
Non, non, ça, malheureusement, c'est à la fin, mais on est là pour...
Oui, mais je veux dire, ça doit être négocié dans le bail de, dans le bail de départ, se dire, attention.
Alors, la particularité, un appartement, quand vous retrouvez un appartement, vous avez les cloisons déjà faites et mm-hmm. ils resteront. Un bureau, non. Vous avez un plateau de 1000 m², il n'y a aucune cloison, aucun câble. Mm-hmm. Ça, c'est la base d'une surface de bureau. Et les cloisons, c'est du mobilier, en fait. Mm-hmm. Mais à la fin, il faut les enlever. Et ça monte jusqu'à 100 à 150 euros par mètre carré. Alors, 150 000 euros de remise en prêt d'État, il y a moyen de... Il y a lieu de
négocier.
De négocier ça, ouais.
D'accord. Daniel Koltoff, un dernier point sur l'immobilier, puis on va passer effectivement, on va s'enfoncer un petit peu plus dans Business Space. On voit beaucoup d'immeubles aujourd'hui qui développent du multifonctionnel. Donc, c'est-à-dire, en gros, vous avez du bureau, mais vous avez aussi une salle de sport, vous avez un restaurant, vous avez un hôtel. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui est amené à se développer ou ça va rester des exceptions?
Tout à fait. Ça va continuer. Et il y a un besoin. Je donne un exemple ici à l'avenue Louise. Nous avons accompagné la banque Edmond de Rothschild, qui ont un plateau de 2000 m² et qui sont rentrés dans l'immeuble parce qu'il y a un coworking en bas pour quand ils ont des projets ou quand ils ont des visiteurs, etc., ils peuvent utiliser des surfaces flex. Ils ont un parking public dans le bâtiment. Ils ont des services de toutes sortes. Hôtellerie, bon, juste à côté, mais l'hôtellerie aussi, c'est un point très important parce que aujourd'hui, les lounges d'hôtels deviennent des lieux de travail. Et les lieux de travail devraient devenir des lounges d'hôtels. Ça, c'est mon conseil que je donne parce que finalement, le lieu dans un bureau où les gens aiment être, c'est là où tout le monde se retrouve. On appelle ça le village, lounge, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais les Hollandais, j'étais là, week-end passé, j'étais en Hollande, et eux, ils ont bien compris. Dans chaque immeuble de bureau se trouve un lounge au rez-de-chaussée avec du café gratuit, bien sûr pour les gens du bureau. Sinon, vous pouvez faire la tournée des cafés dans les bâtiments. Mais c'est quelque chose qui continuera à se développer. Et je pense que les Hollandais ils l'ont bien compris.
Un mot, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le coworking, c'est pour vous de la concurrence? Finalement, c'est une offre complémentaire. Comment vous le voyez par rapport à votre business?
Il faut faire la différence entre, pour moi en tout cas, je ne veux pas prétendre être le spécialiste du coworking ou du business center, mais on a aussi un service qui est Flex Consultancy. Il y a des sociétés qui veulent louer conventionnellement, mais également rajouter des surfaces flex.
Et est-ce que vous allez plutôt dire à vos clients qui veulent aller en coworking, finalement, non, je te conseille, parce que ça va te coûter trop cher, je te conseille de venir sur un fixe.
Au contraire, il faut suivre la volonté et la voix du client. Mais on challenge la volonté du client, parce que très souvent, le client ne sait pas ce qu'il veut. Mais le concept coworking, il a commencé avec WeWork, on connaît bien l'histoire. Mm-hmm. Et c'est très bien pour certains types d'utilisateurs, des jeunes, ceux qui sont très flexibles, des start-up, etc. Mais il y a beaucoup de sociétés. Encore ce matin, on a une grande société dans le travel qui veut 300 mètres carrés, mais ils veulent dans un flex, ils veulent avoir leur surface privatisée.
Mmh. Alors quel est l'intérêt d'aller dans un flex finalement?
Il y a des lounges, il y a des services qui sont différents par rapport à des immeubles tout à fait classiques. Et là aussi, comme je donnais l'exemple avec l'hôtel et le bureau, il y a en quelque sorte une
fusion.
Cette fusion qui commence à se faire. Je suis convaincu que le flex va augmenter dans notre ville également. Les Regus et autres, les Silver Square, je vais les nommer tous parce que sinon ils vont me taper.
Qu'on a reçu ici. Hein.
Silver Square?
Yes.
Ok, voilà. Alors, ils sont tous en train de prendre la place, ce qui est très bien, mais pas chaque locataire veut aller dans ce sens. Et nous suivons la volonté et les stratégies de nos clients.
Voilà. Alors, si on vient à vous maintenant, Daniel Koltoff, en tant qu'entrepreneur, donc vous avez fondé Business Space il y a maintenant une quinzaine d'années.
18 ans.
18 ans. Ouais. C'est quoi l'avenir de Business Space? C'est plus de monde? C'est d'autres villes?
On dit toujours « small is beautiful ». On est avec une équipe de 10. Je pense que 15 personnes, c'est la taille parfaite pour un marché. Je ne l'ai pas encore dit ici, mais on a ouvert un bureau au Luxembourg, un marché très spécifique, avec que 4,5 millions de mètres carrés. Très difficile à développer, mais nous avons la volonté de grandir aussi dans ce marché.
Mmh. Alors, vous habitez en Israël. Est-ce que Israël, c'est un endroit où on pourrait trouver Business Space demain?
Non.
Pourquoi?
Non. Vous allez conseiller des Juifs? Oh. Non, je rigole. Regardez, quand moi je suis en Israël, comme j'ai expliqué, chaque mois, je prends l'avion pour venir ici, pour être en face des clients, en face de mon staff. C'est très important, le face-to-face. Mais être là-bas, c'est déjà suffisant que je suis devant l'écran pour continuer à gérer les activités.
D'accord, mais l'activité que vous faites de Business Space, elle existe en Israël? Est-ce qu'il y a à Tel Aviv des gens qui conseillent aussi des locataires dans relation avec leurs propriétaires?
Elle existe, mais je vais leur laisser le marché complètement pour eux. On a assez avec.
Mais il y aurait de la place pour le faire.
Il y a la place, exactement. Il y a la place.
Il a envie d'aller pour se relaxer, en fait. Si je
franchement,
comprends bien.
Je suis toujours en costume en Israël dans les périodes chaudes. Je me vois pas dans une petite chemise en train de transpirer dans les rues de Tel Aviv. Non, non.
On parlait du Covid, hein, qui a quand même changé tout le marché, qui a rabattu finalement les cartes.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Le Covid, je pense que tout le monde était paralysé. Et aussi, les marchés des bureaux, c'était la guerre. C'était la guerre. Des bureaux vides complètement. Et ça a repris doucement. Et beaucoup d'organisations ont dit pourquoi est-ce qu'on a besoin encore de ce bureau? Arrêtons. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont soit abandonné, soit changer leur façon de travailler, réduire l'espace. En tout cas, ça nous a fait beaucoup de bien, parce que tout d'abord, les marges de négociation...
Il y a beaucoup de négociations à
les marges
à
de négociation étaient beaucoup mieux, beaucoup plus présents. Nos clients avaient besoin de ça, parce que malgré le fait qu'il y avait une indexation une année de 11%, ça veut dire que si vous avez vos salaires qui augmentent de 11%, quelque part d'autre, il faut réduire. Et c'était la première carte, Daniel, on a besoin de réduire les coûts d'immobilier parce que les salaires, sinon on doit mettre des gens dans la rue. Et tout ça fait beaucoup de mouvements les derniers 3-4 ans et ça continue toujours.
Alors Daniel Koltov, un mot, parce qu'on est entre nous, on est qu'à trois, il n'y a personne qui nous écoute. Quand on est, comme vous le faites, le Robin des Bois pour essayer de négocier pour les locataires. Vous n'avez jamais eu, entre nous, hein, vraiment, jamais eu envie d'acheter des surfaces de bureaux et de les mettre en location, finalement, de vous dire, c'est peut-être pas mal. Peut-être qu'il y a un coût qui est intéressant, je pourrais y aller.
Alors, tu vas me dire, c'est cliché, mais la chose la plus importante dans notre histoire, c'est le conflit d'intérêts. Si demain, moi, je devrais avoir une surface de bureau, je ne l'ai pas, une surface de bureau que je mettrais en location, je pourrais rencontrer un conflit d'intérêts. Mmh. Voilà.
Et donc, vous ne l'avez jamais fait ?
Je n'ai pas envie. Je préfère, si c'est le cas, plutôt du résidentiel ou autre chose, mais bureau, non. Je conseillerais des amis à comment faire, mais rentrer là-dedans moi-même, je ne pense pas, non.
Eh bien, Daniel Koltov, on arrive sur la fin de vos explications sur Business Space. Non, on a encore quelques questions pour vous. Rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Business Space pour les 10 prochaines années?
Alors, moi, je me réveille tous les matins avec une envie de bosser avec mon équipe et d'améliorer la vie de nos clients. C'est notre driver. Et de réussir des choses que le client ne s'imaginait pas. Alors, si ça peut continuer de cette façon-là, et de rendre des personnes heureuses, j'ai beaucoup d'histoires que je pourrais vous raconter. Nous, on s'est retrouvés un jour, je pense, à Entreprendre,
Et il y avait... effectivement, on s'est vu sur un salon qui s'appelait le Salon Entreprendre.
Le salon Entreprendre.
Vous sortez vraiment les vieilles archives, là.
Ouais. Mais je vais la raconter.
Je vais partir, là.
Alors, pour tout le monde, pour dire, c'était Miss Belgique, comment elle s'appelait encore?
Voilà, ça commence. J'espère que ma femme n'écoute pas cette émission.
Je suis sûr que non.
Tatiana, je suis sûr que oui, moi, figurez-vous.
Tatiana, je sais pas.
Non, effectivement. Donc, Daniel Koltoff nous a présenté un jour Miss Belgique, qui est une de ses grandes amies.
Non. On a été interviewés tous les deux par la Miss Belgique pour un projet. Mais en tout cas, j'ai fait un workshop et il y avait une dame qui était assise derrière. Elle a attendu jusqu'à tout le monde a reçu des cartes de visite. Elle m'a dit, écoutez, Monsieur Koltoff, j'ai une surface de bureau de 500 mètres carrés. Le propriétaire veut me mettre dehors. Je n'arrive plus à payer les loyers, etc. On a pu négocier, structurer les choses de telle sorte que la dame, elle a survécu, qu'elle a reçu ses gratuités et 2 ans après, elle avait 2500 mètres carrés.
D'accord. Donc, vous n'êtes pas Robin des Bois, vous êtes l'abbé Pierre. On est ravis de vous avoir rencontré aujourd'hui. On va peut-être passer aux questions rapides.
On va attaquer les questions de la fin. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie, Daniel Koltoff?
La plus folle. Oh, je fais pas des choses folles. Je ne fume pas, je ne bois pas.
Ouais, mais il n'y a pas que du vice. Là, on parle de vice. Vous avez peut-être, je sais pas, sauté en parachute ou emprunté.
C'est vrai qu'il faut réfléchir à ça. Il faut reculer dans le temps.
Allez, si vous n'avez pas, alors, vous dites je passe.
Posez la prochaine question.
Alors, quels sont, en dehors de l'immobilier, quels sont vos loisirs, votre passion?
Mardi prochain, je prends un train pour aller skier. Ça, c'est avec la famille, avec mes enfants. C'est un hobby merveilleux.
Est-ce que vous avez une phrase, une maxime que vous aimez utiliser?
Oui, tout à fait. Je vais la sortir. En tant que boss, tu veux dire?
En tant que ce que vous voulez.
En tant qu'homme.
En tant que vous aimez utiliser, je sais pas, ou à la maison, ou au bureau, ou comme vous voulez.
Alors, il y en a un qui est général, c'est que quand j'ai des gens qui se trouvent très importants, je dis it's nice to be important, but it's more important to be nice. Alors, ça, de temps en temps, je l'utilise même dans les affaires, et ça fait pas du bien toujours, mais ça choque. Par contre, il y avait une phrase, voilà, en leaders. Non, c'est pas celui-là. Attendez,
hein. On va vous laisser chercher, Daniel Koltoff. On va vous poser une autre question en attendant. Ouais. Quel est le moment le plus mémorable de votre carrière?
De la carrière. Évidemment, il y a des transactions qui sont grandes, mais je pense que en 1993. Quand j'étais chez Knight Frank, on a pu faire la vente des tours Belgacom. À l'époque, c'était les tours Pléiades à Belgacom. C'était la plus grande transaction jamais faite dans le marché. Je pense que ça fait un des...
Vous en souvenez encore?
Ouais, ça commençait avec ça. J'étais, voilà.
Défaite rend humble ou revanchard, Daniel Koltoff? La défaite rend humble ou revanchard, selon vous?
Ça doit rendre humble. Justement, on doit apprendre de toutes les défaites. On dit toujours, c'est pas une question comment tu tombes, mais comment tu te relèves. Je pense que c'est ça que j'essaie de transmettre à mes enfants, mais aussi à mes collaborateurs.
Ouais. Alors, Daniel Koltoff, vous êtes dans le bureau. Si je viens voir votre bureau, c'est quoi les 3 objets qui sont indispensables pour vous?
Quelle question.
Machine à café?
Oui, il y a l'eau froide. Il y a mes mandarines, moi je suis accro de mandarines.
Donc ça sera que 2 éléments, de l'eau froide et des mandarines.
Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment?
Évidemment, ce qui se passe en Israël est un moment très dur. Mais en même temps, j'étais visiter certaines bases militaires et j'étais tellement... inspiré de cette union qui s'est créée après le 7 octobre. Et alors, ça m'a fait chair de poule. Comment dire, chair de poule?
Ça m'a donné la chair de poule.
Ouais, chair de poule, ce qu'on a retrouvé là-bas. Ouais.
Allez, la dernière.
La dernière, donc après, effectivement, la chair de poule, quel est votre conseil pour rester zen?
Faire ce qu'on aime. Enfin, tout d'abord, faire ce qu'on dit. on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Pas compliquer les choses, pas réinventer la roue et faire ce qu'on aime.
Daniel Koltov, merci beaucoup d'avoir participé à Mythe de Boss. On va se quitter avec Frank Sinatra, New York, New York. C'était votre deuxième choix musical. D'ici quelques instants, on va retrouver Blaise van der Linden pour le grand journal de Radio Judaïka. Et puis juste après, ça sera l'émission de la Brit. Et puis les modes Anouk, dès demain matin à partir de 7h, la matinale de Radio Judaïka. Et la semaine prochaine, à votre place, on aura un avocat pénaliste, Pierre Impler, qui viendra expliquer son métier. Voilà, on change complètement de sujet. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci, Olivier.
Passez une belle semaine. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup,
Olivier,
Daniel.
Merci,
au revoir.
Merci, Daniel.
Au revoir.